Les jours passèrent, et avec eux, les nuits. Ma maison était envahie d'environ 4 douzaines d'hommes, et pour la première fois de ma vie, je me retrouvais cernée de chair mortelle. Leurs corps frêles demandaient une attention constante, de la nourriture et de la boisson, du sommeil et du repos, le nettoyage des membres et des flux corporels. Les mortels doivent être si patients pour s'astreindre à tout cela, heure après heure. Le cinquième jour, le poinçon d'Ulysse glissa et lui déchira le gras du pouce. Je lui donnai des pommades et utilisai mes charmes pour éviter l'infection, mais la blessure mit tout de même une demi-lune à guérir. Je regardai la souffrance passer sur ses traits. Il avait mal, et cela mit très longtemps à passer. Sans compter qu'il s'agissait juste d'un de ses maux, avec son cou bloqué, ses brûlures d'estomac et les douleurs de ses anciennes blessures. Je laissai courir mes mains sur les nervures de ses cicatrices, le soulageant de mon mieux. Je lui proposai de les faire disparaître purement et simplement. Il secoua la tête. Comment me reconnaîtrais-je ensuite? Je m'en réjouis en secret. Elle lui allait bien. Il était Ulysse le persévérant, et ce nom lui collait à la peau. Quiconque le verrait serait obligé de le saluer en se disant « Voilà un homme qui a vu le monde. Voilà un capitaine qui a des histoires à raconter. » Dans ces moments-là, il est possible que je lui ai narré mes propres histoires. Scylla et Glaucos, Aétès, le Minotaure. La sensation de ce mur qui me griffait le dos. Le sol de ma maison humide de sang reflétant la lune. Les corps que j'avais traînés un par un au bas de la colline avant de les brûler avec leur navire. Le son qu'émet la chair quand elle se déchire et se reforme, et comment, quand on transforme un homme, on peut s'arrêter à mi-chemin, condamnant à mort cette monstrueuse chose à moitié bête. Lorsqu'il m'écoutait, il prenait un air concentré pendant que son esprit inépuisable examinait, soupesait et cataloguait tout. Même si je prétendais pouvoir dissimuler mes pensées aussi bien que lui, je savais que c'était faux. Il lisait en moi comme dans un livre ouvert. Il rassemblait mes faiblesses pour les ranger avec le reste de sa collection, en compagnie de celles d'Achille et d'Ajax, et les gardait sur lui comme d'autres portent des couteaux. Je contemplais mon corps nu à la lueur du feu, essayant de l'imaginer couvert des marques de sa propre histoire. Ma paume, avec sa cicatrice due à la foudre, ma main aux doigts manquants, les 1000 coupures occasionnées par mon travail de sorcière, les sillons cartilagineux provoqués par le feu de mon père, la peau de mon visage pareille à une bougie à moitié fondue. Et il s'agissait seulement de ce qui avait laissé des traces. Personne ne me féliciterait. Comment Aétès avait-il appelé une nymphlède? Une tache sur la face du monde. Mon ventre lisse resplendissait sous ma main. Il avait la couleur du miel au soleil. J'attirais Ulysse à moi. J'étais une sorcière dorée, totalement dépourvue de passé. Je commençais à connaître un peu ces hommes, ces cœurs inconstants dont il avait parlé, ces vaisseaux à la coque fuyarde. Polytès avait de meilleures manières que les autres. Eurylocke était buté et boudeur. Elpénor avait une figure maigre et un rire strident de chouette. Il me rappelait des louveteaux dont les soucis s'envolaient dès qu'ils avaient le ventre plein. Sur mon passage, ils baissaient les yeux comme pour s'assurer que leurs mains avaient toujours leur apparence habituelle. Ils occupaient toute leur journée avec des jeux. Ils organisaient des compétitions à travers les collines, sur la plage, et accouraient constamment vers Ulysse, pantelant. « Veux-tu arbitrer notre concours de tir à l'arc? De lancer de disques? Nos joutes au javelot ?» Parfois, ils s'éloignaient avec eux en souriant, mais parfois encore ils se mettaient à crier ou à les frapper. Il n'était pas aussi facile et constant qu'il le prétendait. Vivre avec lui était comme se tenir face à la mer. Changeant chaque jour de couleur et de hauteur au-dessous de sa couronne d'écume, mais toujours pourvu de la même intensité agitée qui vous tirait vers l'horizon. Quand le bastingage de son navire se brisa, de rage il donna un coup de pied dedans avant d'en jeter les morceaux dans les vagues. Le lendemain, il partit d'un air sombre dans la forêt avec sa hache, et lorsque Eurylocke lui proposa son aide, il montra les dents. Il parvenait encore à se dominer et à afficher l'air serein qu'il avait dû prendre tous les jours pour canaliser Achille. Mais cela lui coûtait, et ensuite il était sujet à ses accès de mauvaise humeur. Les hommes l'évitaient alors, et je lisais la confusion sur leurs traits. Comme Dédale me l'avait dit un jour, même le meilleur des fers devient cassant à force d'avoir été trop battu. J'étais aussi lisse que l'huile, aussi calme qu'une étendue d'eau dépourvue de vent. Je le poussais à raconter ses voyages parmi les contrées et les hommes étrangers. Il me parla des armées de même nom, fils de l'Aurore, roi d'Éthiopie, et des Amazones à cheval, avec leurs boucliers en forme de croissant. Il avait entendu dire qu'en Égypte, certains pharaons étaient des femmes habillées en hommes, qu'en Inde, on trouvait des fourmis de la taille d'un renard qui cherchent de l'or dans les dunes, et que dans le Grand Nord, vivait un peuple qui ne croyait pas que la rivière d'océan entourait la terre, mais qu'à la place, un grand serpent aussi gros qu'un bateau et constamment affamé les encerclait. Celui-ci était incapable de rester immobile, car son appétit le propulsait toujours vers l'avant, dévorant tout insatiablement, si bien qu'un jour, quand il aurait avalé le monde entier, il se dévorerait lui-même. Il avait beau avoir voyagé très loin, il revenait toujours vers Ithaque. Ses oliveraies et ses chèvres, ses loyaux serviteurs et les excellents chiens qu'il avait élevés lui-même, ses nobles parents, sa vieille nourrice et sa première chasse au sanglier qui lui avait valu sa longue cicatrice à la jambe. Télémaque, son fils, devait être en train de redescendre les troupeaux du haut des montagnes à l'heure qu'il était. « Il s'en occupera bien, comme moi. Tous les princes doivent connaître leur terre, et il n'y a pas meilleur moyen pour cela que de faire paître les chèvres. » Il ne disait jamais « Et si, à mon retour, il n'y avait plus qu'un tas de cendres ?» Mais je discernais cette pensée en lui, vivant comme un second corps et prospérant dans l'ombre. On était déjà en automne, la lumière diminuait, l'herbe craquait sous nos pas. Le mois prévu s'était presque écoulé. Nous étions allongés dans mon lit. « Je crois que nous devons partir très bientôt, ou bien rester tout l'hiver. » La fenêtre était ouverte. La brise nous survola, caressante. C'était l'un de ces trucs, prononcer une phrase comme on pose une assiette sur une table et attendre de voir ce que vous alliez mettre dedans. Toutefois, il me surprit en ajoutant « Je resterai bien, si tu voulais m'accueillir. Ce serait seulement jusqu'au printemps. Je partirai dès que les mers redeviendront navigables. Nous prendrons à peine du retard. » Cette phrase-là ne m'était pas destinée à moi, mais à la personne invisible avec laquelle il se disputait silencieusement. L'un de ses hommes, peut-être, ou son épouse, quelle importance. Je gardais le visage détourné pour qu'il n'y lise pas ma satisfaction. « Je veux bien t'accueillir. » Ensuite, quelque chose se modifia en lui, le relâchement d'une tension que je n'avais pas compris qu'il ressentait. Le lendemain, il descendit en chantonnant jusqu'à la plage avec son équipage. Ils tirèrent le bateau dans une grotte abritée. Ils l'entourèrent de pieux, roulèrent les voiles, rangèrent le matériel pour le mettre à l'abri des orages d'hiver jusqu'au printemps. Parfois, je le surprenais en train de m'observer. Il prenait une expression intense et se mettait à me poser ses questions désinvoltes et obliques. Au sujet de l'île, de mon père, du métier à tisser, de mon histoire, de la sorcellerie. Je finissais par connaître cette expression. Il avait la même quand il repérait un crabe à trois pinces ou s'interrogeait sur les caprices des marées dans la baie est d'Éa. Le monde était plein de mystères. Je n'étais qu'une énigme parmi des millions. Je ne lui répondais pas, et même s'il prétendait être frustré, je m'aperçus que, bizarrement, cela lui plaisait. Une porte qui ne s'ouvrait pas dès qu'il frappait était en soi une nouveauté pour lui, et aussi une sorte de soulagement. Le monde entier se confessait à lui, et lui se confessait à moi. Il me racontait certaines histoires en plein jour. D'autres venaient lorsque le feu s'était consumé et qu'il n'y avait personne pour le reconnaître à part les ombres. C'était après les cyclopes. Finalement, nous avons eu un peu de chance. Nous avons abordé sur l'île des vents. En as-tu entendu parler ? Le roi Éole, l'un des préférés de Zeus, dont la tâche consiste à suivre les coups de vent qui font circuler les navires autour du monde. Comme j'avais ses faveurs, il nous a permis d'accélérer. Il m'a aussi donné une grande outre, où enfermer tous les vents contraires pour qu'ils ne puissent pas nous ennuyer. 9 jours et 9 nuits durant, nous avons fendu les vagues. Je n'ai pas dormi, pas même une heure, car je montais la garde à côté. Évidemment, j'avais expliqué à mes hommes ce que c'était, mais... Ils secouaient la tête. Ils se sont persuadés qu'il s'agissait d'un trésor que je refusais de partager. Leur part du pillage de Troie avait été engloutie par les vagues depuis longtemps. Ils ne voulaient pas rentrer chez eux bredouille. Bref, poursuivit-il en inspirant profondément, tu imagines sans peine ce qui est arrivé. Je l'imaginais fort bien. Ces hommes étaient plus indisciplinés que jamais, enivrés par la perspective d'un long hiver d'oisiveté. Le soir, ils aimaient jouer à un jeu consistant à lancer les restes de leur vin. Ils choisissaient un tranchoir quelconque comme cible, mais ils visaient très mal, car ils en avaient déjà bu des litres. La table se tachait progressivement comme après un massacre, et ils jetaient des coups d'œil insistants à mes nymphes pour qu'elles viennent la nettoyer. Lorsque je leur annonçais qu'ils devraient le faire eux-mêmes, ils s'entre-regardèrent, et si j'avais été quelqu'un d'autre, ils m'auraient défié. Heureusement, ils se souvenaient encore de leur groin. En fin de compte, je n'ai pas pu résister plus longtemps, continua Ulysse, et je me suis endormi. Je ne les ai pas sentis m'enlever l'outre. C'est le hurlement des vents qui m'a réveillé. Ils s'en sont échappés en tourbillonnant et nous ont repoussés très loin, comme si nous n'étions jamais partis. Chaque mille parcourus réduit à néant. Ils pensent que je pleure leurs camarades morts, et c'est vrai. Seulement, parfois, j'ai toutes les peines du monde à ne pas les tuer de mes propres mains. Ils ont des rides, mais pas la sagesse qui va avec. Je les ai emmenés à la guerre avant qu'ils puissent accomplir toutes ces choses qui stabilisent un homme. Ils n'étaient pas mariés au moment de leur départ. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas connu les années de vaches maigres où l'on doit racler le fond des greniers, et pas les bonnes années non plus où ils auraient pu apprendre à économiser. Ils n'ont pas vu leurs parents vieillir, ni commencer à décliner. Ils ne les ont pas vus mourir. Je crains de ne pas leur avoir volé seulement leur jeunesse, mais aussi leur maturité. Il se frotta les articulations des mains. Plus jeune, il avait été archer, et la force que l'on doit employer pour tendre la corde, encocher la flèche et tirer, abîme les mains de la pire des façons. Il avait beau avoir laissé son arc chez lui en partant pour Troie, la douleur l'avait suivi. Un jour, il m'avait confié que, s'il l'avait apporté, il aurait été le meilleur archer des deux armées. Alors pourquoi l'avoir laissé là-bas ? « Question de politique », avait-il expliqué. L'arc était l'arme de Paris. Paris, le ravisseur de jolies femmes. Chez les héros, on le considérait comme un lâche. Aucun archer, même le plus habile, n'aurait pu être nommé meilleur des Grecs. « Les héros sont des imbéciles », avais-je commenté. Il avait ri. « Nous sommes bien d'accord. » Ses yeux étaient fermés. Il était resté silencieux si longtemps que je crus qu'il dormait. Et puis il reprit. Si tu avais vu à quel point nous étions près d'Ithaque, je sentais presque les feux des pêcheurs sur la grève. Je me mis à lui demander de menus services. Pourrait-il tuer un daim pour le dîner? Attraper quelques poissons? Ma porcherie partait en lambeaux. Lui serait-il possible de réparer ses clôtures? J'éprouvais un plaisir intense à le voir passer la porte chargée de filets pleins, de paniers de fruits de mon verger. Il m'accompagnait désormais au jardin, arrachant les mauvaises herbes à mes côtés. Nous parlions des différents vents qui soufflaient, d'Elpénor qui avait pris l'habitude de dormir sur le toit, de la nécessité de le lui interdire ou non. « Cet idiot !» s'indigna-t-il. « Il va finir par se casser le cou. » Je lui dirai qu'il n'a la permission d'y aller que s'il est sobre. Il ricana. C'est-à-dire jamais. Je savais que je me berçais d'illusions. Même s'il restait au-delà de ce printemps, et jusqu'au suivant, un homme pareil ne serait jamais heureux, confiné dans mon île étroite. Et même si j'arrivais d'une manière ou d'une autre à le contenter, il y avait des limites, car il était mortel et pas tout jeune. « Remercie le ciel, me disais-je. Un hiver, c'est déjà davantage que ce que tu as eu avec Dédale. » Je n'en fis rien. J'appris quelles étaient ses nourritures préférées et souris à le voir prendre plaisir à les manger. Le soir, nous nous asseyions près du feu en parlant de la journée. « Que penses-tu du grand chêne qui a été frappé par la foudre ?» lui demandai-je. « Crois-tu qu'il soit pourri à l'intérieur ?»« J'irai voir. Si c'est le cas, il ne sera pas difficile à abattre. Je m'en occuperai demain, avant le dîner. » Il l'abattit et passa le reste de la journée à tailler mes ronces. Elles avaient proliféré. Ce dont tu as besoin, c'est de chèvres. Un troupeau de 4 en aurait raison en un mois et permettrait que ça continue. Mais où vais-je trouver des chèvres ? Ce mot entre nous, Ithac, pareil à un charme en train de se rompre. Peu importe, repris-je. Je vais transformer quelques moutons, ça réglera le problème. Au dîner, mes nymphes s'attardaient de plus en plus auprès des hommes, avant d'entraîner ceux qu'elles trouvaient à leur goût dans leur lit. Cela aussi me plaisait, ce mélange entre ma maisonnée et la sienne. Un jour, j'avais dit à Dédale que je ne me marierais jamais, parce que j'avais les mains sales et que j'aimais trop mon travail. Mais Ulysse était un homme qui avait les mains sales lui aussi. Et où penses-tu qu'il a appris tous ces raffinements domestiques, Circé ? Mon épouse, disait-il toujours en parlant d'elle. Mon épouse, mon épouse. Ces mots brandis devant lui tel un bouclier. Comme les campagnards qui refusent de prononcer le nom du dieu de la mort, de peur qu'il ne vienne leur enlever leur bien-aimée. Elle s'appelait Pénélope. Pendant son sommeil, il prononçait parfois ces syllabes dans l'obscurité. C'était peut-être un défi ou une preuve. Tu vois, elle ne vient pas. Elle n'a pas les pouvoirs que tu crois. Je me retins autant que possible, mais au bout du compte, elle était bien la croûte que je devais arracher. Je guettai le bruit de sa respiration qui signifiait qu'il était suffisamment éveillé. Comment est-elle ? Il évoqua ses manières douces, la façon dont ses demandes mesurées mettaient immédiatement les hommes en branle, mieux que n'importe quel cri. C'était une excellente nageuse. Sa fleur préférée était le crocus, et tous les printemps, elle portait la première de la saison dans ses cheveux en guise de porte-bonheur. Il avait le chic pour l'évoquer comme si elle se trouvait dans la pièce d'à côté et qu'ils n'étaient pas séparés par 12 ans et tant de mères lointaines. « C'était la cousine d'Hélène, » m'expliqua-t-il. « 1000 fois plus astucieuse et sage qu'elle, même si Hélène était astucieuse à sa manière, quoique bien sûr inconstante. À ce stade, j'avais déjà entendu l'histoire d'Hélène, reine de Sparte, fille mortelle de Zeus et plus belle femme du monde. » Paris, le prince de Troie, l'avait ravi à son époux Ménélas, déclenchant ainsi la guerre. A-t-elle suivi Paris d'elle-même ou y a-t-elle été forcée ? Voulus-je savoir. Qui peut le dire ? Nous avons campé devant les portes du palais pendant 10 ans, et d'après ce que j'ai entendu, elle n'a jamais essayé de s'enfuir. Mais dès que Ménélas a envahi la ville, elle s'est jetée sur lui, nue, jurant que sa captivité avait été une torture et qu'elle ne souhaitait qu'une chose, retrouver son mari. Personne n'obtiendra jamais toute la vérité de sa part. Elle a autant d'anneaux qu'un serpent et ne perd jamais de vue son intérêt. « Pas très différente de toi, » avais-je pensé. « En revanche, » reprit-il, « mon épouse est constante, constante en tout. » Même les hommes sages sortent parfois du droit chemin, alors qu'elle, jamais. C'est une étoile fixe, un arc fait main. Il y eut un silence, durant lequel je le sentis fouiller très loin dans ses souvenirs. Rien de ce qu'elle dit n'a une signification unique ou une intention unique, et pourtant, elle est stable. Elle se connaît. Ces mots s'infiltrèrent en moi aussi aisément que la lame polie d'un couteau. J'avais su qu'il l'aimait au moment où il avait parlé de sa façon de tisser. Malgré tout, il était resté, mois après mois, et je m'étais laissé endormir. Maintenant, je voyais la situation plus clairement. Les nuits qu'il passait dans mon lit n'avaient été qu'une marque de sa sagesse de voyageur. Quand on se trouve en Égypte, on vénère Isis. En Anatolie, on tue un agneau pour Cybèle. Cela ne fait pas d'ombre à Athéna que vous adorez à la maison. J'avais beau en être convaincue, je savais que ce n'était pas la seule réponse à mes questions. Je me souvins de toutes ces heures qu'il avait passées à la guerre, à ménager les tempéraments orageux des rois, les bouderies des princes, contrebalançant chaque fier guerrier par un autre. C'était un exploit qui égalait la maîtrise des bœufs crachant le feu d'Aétès, grâce à sa ruse seule. Mais chez lui, à Ithac, il n'y aurait ni héros indisciplinés, ni conseils, ni raids nocturnes, ni stratagèmes désespérés à élaborer pour éviter la mort de ses soldats. Comment un homme pareil pourrait-il retourner au bercail, retrouver sa cheminée et ses olives ? L'harmonie domestique qu'il vivait avec moi représentait une sorte de répétition générale. Quand il s'asseyait devant l'âtre, quand il travaillait dans mon jardin, il essayait de se souvenir comment reprendre le pli. Quel effet cela faisait de planter une hache dans du bois et non dans de la chair humaine ? Comment il pourrait de nouveau s'ajuster à Pénélope avec la même fluidité que les constructions de Dédale ? Il dormait près de moi. De temps en temps, sa respiration accrochait à l'arrière de sa gorge. Tic. Pasiphaé m'aurait conseillé de préparer un filtre d'amour qui le lierait à moi. Aétès, de lui voler son intelligence. J'imaginais son visage vide de toute pensée à part celle que je pourrais y introduire. Il serait à mes genoux, levant vers moi des yeux stupides, adorateurs et absents.